Après Noël, il y a donc l'épiphanie, ou plutôt des épiphanies, c'est-à-dire des manifestations de Jésus à différents personnages. Et la Bible nous donne différents exemples de ces manifestations. Il y a les mages, avec leur étoile qui arrive à Bethléem. Il y a les bergers dans les campagnes. Il y a Siméon et encore d'autres auxquels Jésus se manifeste. J'aime bien ces exemples de manifestations, parce que la question que j'ai toujours un petit peu en moi en lisant ces textes, c'est de savoir comment l'on peut découvrir le Christ et comment le Christ peut se manifester à nous, comment je peux le voir, le rencontrer, l'expérimenter, dirais-je. Et d'autre part, toujours aussi cette question, qu'est-ce que ça change dans une vie que de rencontrer le Christ ? Alors on peut prendre chacun de ces exemples et voir ce que cela fait aux mages de découvrir Jésus, ce que cela transforme dans la vie des bergers, dans celle de Siméon, d'Anne ou encore d'autres. Et en fait, ce qui moi m'a frappé en relisant tous ces textes les uns à côté des autres, je dirais, c'est l'extrême diversité des expériences. En effet, Jésus n'apparaît pas du tout de la même manière aux mages, aux bergers, à Siméon, à Anne, à Joseph, à Marie et à tous les autres. À chaque fois, il se passe des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et du coup, c'est très difficile de faire une synthèse. Alors peut-être même est-ce là justement ce qu'il y a à en tirer. Peut-être que la leçon de tout cela, c'est de comprendre que Jésus apparaît à chacun en conformité avec le système préalable de chacun. C'est-à-dire que chacun va découvrir Jésus avec son bagage préalable, avec sa nature, son éducation, sa culture, sa religion, son espérance, ses attentes, et c'est là-dedans que Jésus va apparaître. Cela veut dire que l'apparition de Jésus est quelque chose d'extrêmement subjectif, si vous voulez. Il n'y a pas une manière avec laquelle Jésus se manifeste, mais tout dépend de la personne. Et même, si on se demande de quel type d'espérance Jésus est porteur, qu'est-ce que la rencontre du Christ apporte comme bonne nouvelle, là encore, je dois reconnaître que finalement, eh bien, chacun va être comblé dans son attente. Mais comme les attentes de chacun étaient différentes, eh bien chacun sera comblé d'une manière différente. Ça se voit assez bien. Regardez les mages, par exemple. Les mages, on nous dit que c'était des astrologues. Bon, les mages étaient astrologues, ils attendaient la lumière, ils regardaient les étoiles. Eh bien, c'est une étoile qui va les conduire à Jésus. Ça, c'est étonnant. Et c'est beaucoup plus étonnant même que vous ne pensez. Parce que l'astrologie, déjà, elle est mal vue, je dirais, par les pasteurs, les prêtres et l'Église aujourd'hui. Mais dans la Bible, elle est carrément condamnée. Eh bien là, dans ce texte, les mages sont de joyeux astrologues qui pratiquent l'astrologie comme Madame Soleil et d'autres, et c'est ça qui les amène au Christ. Et il n'y a dans le texte pas un mot pour critiquer la démarche. Ça, c'est très extraordinaire. De même, les bergers. Alors les bergers, c'était des juifs, nous dit-on. Ils étaient donc dans l'attente messianique et ils avaient été élevés dans toute une croyance, je dirais, de toute une sorte de mythologie juive, avec des anges, avec des gloires, des voix qui viennent du ciel, des annonces, des trompettes et tout ce que vous voulez. Et voilà que Jésus apparaît avec des anges, avec des gloires, avec des trompettes, avec des voix du ciel, avec tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que là encore, eh bien, Jésus apparaît aux bergers comme les bergers l'attendaient. Et Jésus apparaît aux mages comme ils l'attendaient. Siméon encore, ce vieux personnage que j'aime bien. Siméon, on nous dit qu'il attendait la gloire pour son peuple. Eh bien voilà, Jésus apparaît et il dit « c'est merveilleux, c'est la gloire pour mon peuple ». Tout ça est extraordinaire. Parce que vous voyez que chacun est finalement assumé comme il est. Et la révélation de Jésus va se faire selon la nature et la culture de chacun. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement tous ces gens ? S'ils sont si différents les uns des autres, qu'est-ce qu'ils partagent ? Et qu'est-ce qu'il va faire que eux, justement, vont rencontrer le Christ ? Sachant que puisque c'est si différent, c'est qu'à mon avis, ce n'est ni l'étoile qui les a conduits là, ni l'espérance messianique, ni rien. Il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui a pu les conduire à entendre cette révélation ? Eh bien, je crois que ce qu'ils ont en commun, c'est que tous, ils attendent quelque chose. Ils ont une sorte d'aspiration. Alors, cette attente et cette aspiration, c'est le point fondamental. Celui qui n'attend rien ne peut rien recevoir. Et finalement, quelles que soient vos croyances, vos religions, vos pratiques, si ça ouvre en vous une sorte d'appétit extraordinaire d'une autre dimension, alors c'est bon. Et si ça ferme tout appétit, alors c'est mauvais. C'est pour ça que je crois que les sectes sont dangereuses et mauvaises. Parce que au lieu de nous tourner vers des questions, ils bouchent tout avec des réponses. Les gens qui viennent faire de la publicité pour les sectes ne vous posent aucune question, ils vous apportent des réponses à des questions que vous ne vous posez même pas. Eh bien ça, je crois que c'est le contraire de la démarche positive pour découvrir une véritable manifestation de vie. Autre qualité extraordinaire de tous ces personnages des épiphanies, c'est, je dirais, leur ouverture d'esprit, ou plutôt leur non-dogmatisme. Ils sont prêts à s'ouvrir sur quelque chose qui, a priori, n'est pas la base de leur foi. Regardez les mages. Pour découvrir Jésus, ils suivent leur étoile, bon, très bien. Mais même, ils vont discuter avec les prêtres de Jérusalem. Eh bien ça, c'est une bonne leçon, même pour moi. Parce que moi, est-ce que je vais demander aux prêtres de Saint-Ferdinand des Ternes comment découvrir Jésus dans ma vie ? Eh bien, je ne le fais pas. Les mages, eux, sont allés demander aux prêtres de Jérusalem comment trouver Jésus. Ça veut dire qu'ils ont été capables de sortir de leur système de pensée, de sortir de leur petite religion étriquée pour s'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres. Je pense que là aussi, il y a un secret. Et puis, on dit bien sûr que les mages, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur étoile ? Est-ce qu'ils ont cessé d'être astrologues parce qu'ils rentrent chez eux et il n'y a plus d'étoiles ? C'est ce que l'on dit. Mais n'empêche qu'ils rentrent quand même chez eux. Donc finalement, les mages restent des mages. Et ils restent des Babyloniens, ils restent des Masdéens. À aucun moment, les mages se convertissent au judaïsme. Personne ne leur demande, d'ailleurs. Mais ils acceptent d'être en dialogue avec des gens qui ne sont pas a priori de leur sérail. L'essentiel, ce n'est donc peut-être pas la croyance, mais c'est la dynamique de l'existence, le fait d'être ouvert, le fait de pouvoir aussi accueillir une réalité nouvelle et de reconnaître dans quelque chose d'étrange et qu'on n'attendait pas ce qui peut accomplir notre désir. Parce qu'en effet, je pense que ce qui était fondamental, c'est d'avoir un désir. Mais le danger, ce serait de trop formaliser le désir, c'est-à-dire de savoir exactement ce que l'on attend. Parce que là, on se renferme dans une impasse. C'est comme le jeune homme qui, à 20 ans, dirait « Moi, je veux me marier avec une jeune fille qui mesure 1m80, qui soit blonde, qui pèse 70 kilos et qui soit avocate. » Eh bien, on ne peut pas se marier comme ça. Il faut une sorte d'attente et une capacité à accepter une réponse à cette attente qui ne soit pas fondamentalement ce que l'on imaginait soi-même. Ça, c'est vrai pour se marier, mais c'est vrai aussi, je crois, dans la religion. Et quand on voit tous nos personnages auxquels je reviens, ils auraient pu être déçus. Les mages, on nous dit qu'ils viennent adorer le roi des Juifs. Ils viennent pour ça, ils traversent tout l'Orient pour ça. Et où est-ce qu'ils arrivent ? Dans une étable. Bon, c'était pas évident pour eux. Peut-être qu'ils imaginaient que le roi des Juifs, ils le trouveraient dans un salon tendu de pourpre et de dorures, avec des dorures partout. Et ils voient un pauvre gamin dans une étable, dans une mangeoire. Choc, c'est pas ce que j'attendais. Et pourtant, ils déballent leurs cadeaux et ils donnent l'or, l'encens et la myrrhe. C'est-à-dire qu'ils sont capables de changer en quelque sorte leur plan et d'adopter une réponse à leurs questions qui n'est pas celle qu'ils attendaient. De même, les bergers. On leur dit « le Christ », c'est-à-dire « le Messie est là ». Formidable ! Les Juifs attendent le Messie depuis des centaines et des centaines d'années. Mais voilà qu'on leur présente un enfant. C'est pas du tout ce qu'ils attendaient, mais pas du tout. Dans la Bible, le Messie, ça n'est jamais un enfant. Le Messie, c'est celui qu'on oint pour le nommer serviteur de Dieu. C'est celui qu'on nomme roi. Mais qui nomme ton roi? On nomme Saül, un homme mûr, on nomme David. Bon, qui était jeune, mais ce n'était pas un enfant. On oint aussi les prophètes. On oint Élie, Élisée, qui était grand, qui c'était des hommes faits. On n'est pas dans ce système où on va chercher un enfant dans un village pour le nommer Dalai Lama ou je ne sais quoi. Dans la Bible, le Christ, le Messie, c'est un adulte. Et celui qu'on attend, ce n'est pas un bébé, c'est un homme mûr, capable d'agir. Donc les bergers auraient pu dire, mais ce n'est pas ça que j'attends, et s'en aller. Mais ils arrivent à admettre cette réponse qui est la réponse de Dieu, qui n'est pas leur réponse, ils arrivent à l'admettre et à l'intégrer. Ce n'est pas évident, ça. Ça n'est pas évident. Parce que c'est la même chose peut-être aussi pour nous, pour nos prières. Nous prions Dieu, nous avons des problèmes, nous demandons « Ah, ce serait bien si !» et finalement nous disons à Dieu ce qu'il faudrait qu'il fasse pour nous. Mais la vraie prière, ce n'est pas de se figer sur la réponse que nous attendons. La vraie prière, c'est de dire à Dieu son besoin, son manque, son désir, son aspiration, et de laisser Dieu répondre à notre prière, et d'être capable de reconnaître dans ce qui arrive la réponse même de Dieu, et qui n'est en général pas tout à fait celle que nous avions imaginée. Et du coup, je me dis la chose suivante. C'est que tous ces gens, ils ont fait preuve d'ouverture, mais qu'à la base, ils avaient des souhaits, ils avaient des vœux, ils avaient une quête de quelque chose. Et peut-être que, effectivement, tous ces vœux que l'on fait au début de l'année, eh bien, ça n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on exprime, justement, que l'on a des vœux et des souhaits. Eh bien, c'est une très bonne chose d'avoir des vœux et des souhaits. C'est une extrêmement belle, bonne et chose fondamentale, parce que c'est à partir de là que peut arriver quelque chose dans notre vie. Et même, dirais-je, que ces vœux, que ces souhaits ne soient pas toujours des vœux très, très bien comme il faut, ça n'est pas grave. Les mages avaient une mauvaise attente avec leurs étoiles, les bergers se trompaient aussi, Siméon était à côté de la plaque en attendant la gloire de son peuple, etc. Mais peu importe, ils avaient des vœux, ils avaient des souhaits, ils avaient une attente. Et donc tous les vœux que nous faisons au début de l'année sont bons, même ceux qui sont mauvais, idiots ou inutiles. Ce sont des choses qui nous ouvrent en avant. Alors il ne faut pas trop, je dirais, taper sur les vœux matériels. Je l'ai fait peut-être trop souvent. Et c'est vrai que j'ai souvent lutté contre les vœux que l'on fait en début d'année en disant « Ah, madame, chère madame, tous mes vœux et surtout bonne santé, hein, bonne santé, ça c'est important, la santé. Et puis je vous souhaite que la crise ne vous touche pas trop, que vous ne soyez pas ruiné, et puis que vous ayez beaucoup d'amour dans votre vie et que vous trouviez du travail, que vos enfants aillent bien, que tout quoi. » Je me suis dit « Mais ça c'est... » Longtemps, je me suis dit, mais c'est des vœux païens, c'est complètement décalé par rapport à ce que Dieu nous donne. Eh bien, ça n'est pas grave. Ce sont des vœux quand même. Et il faut accepter ces vœux comme les points de départ de notre démarche spirituelle. Et en réfléchissant à ça, j'ai repensé à autre chose aussi. Un texte que j'ai longtemps, je dirais, arrangé à ma manière. Ce sont les béatitudes de Luc. Vous savez, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif. Et souvent j'ai dit non, ça faut pas le lire trop vite, faut le lire dans la version de Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les pauvres spirituellement. Et en fait, Luc met simplement heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif. Eh bien peut-être que Luc a raison. Oui, évidemment, c'est très bien d'avoir faim et soif de justice. Mais même, heureux les pauvres, parce que celui qui est pauvre, il veut des sous. Celui qui est pauvre, il sait qui sait qu'il lui manque quelque chose. Et donc, il peut partir en quête de quelque chose. Heureux ce qui a faim, oui, heureux celui qui a soif, heureux celui qui dit « je voudrais être en bonne santé », celui qui dit « je voudrais guérir, je voudrais retrouver une famille stable, je voudrais trouver un emploi », heureux celui qui a un désir dans sa vie. Parce que sans désir, il n'y a rien, il n'y a pas de réponse possible. Et donc oui, il faut avoir des vœux, il faut avoir des désirs. Et je crois que la religion a trop longtemps lutté contre les désirs, comme si nous devions vivre dans une sorte de confiance en Dieu, en ne désirant rien, en acceptant tout, en étant soumis à tout ce qui nous arrive. Eh bien, je crois que ça n'est pas cela, l'Évangile. On peut avoir des vœux, on peut avoir des souhaits, on peut avoir des désirs, et c'est à partir de là qu'on se construit. Les vœux se réalisent ou ne se réalisent pas, ça c'est une autre question. Et donc, la seule attitude essentielle, c'est d'être disponible par rapport à la réponse à ses vœux et d'être capable d'accepter une réponse qui n'est pas celle que nous attendions. Et à chaque fois, on voit que Jésus accomplit l'attente de nos braves gens des épiphanies, là. Jésus accomplit l'attente, oui, mais d'une manière complètement décalée, d'une manière inattendue, d'une manière qui n'est pas comme il faut. Il accomplit l'attente quand même. Il est le Messie, bon, mais pas comme on pensait, c'est un bébé, bon, c'est pas grave, il grandira. Il est roi, bon, il est humilié et méprisé, sans pouvoir temporel, sans territoire, sans rien, mais c'est pas grave. Il est la gloire du peuple, bon, la gloire du peuple, le peuple en question, qui sont les Juifs, se ficheront toujours de Jésus et ne reconnaîtront jamais en lui la moindre gloire, donc c'est raté. Mais non, il est quand même la gloire du peuple, et il est quand même le Messie, et il est quand même le roi. Et c'est pourquoi j'aime ce passage de 1 Corinthiens, premier chapitre, qui parle justement de la folie de la prédication. En effet, il y a une sagesse humaine. L'erreur serait de croire que la sagesse humaine pourrait nous faire découvrir la vérité et le but de notre vie. La sagesse humaine n'a peut-être qu'un sens, c'est de nous ouvrir aux questions. Et après, il faut être capable d'entendre la folie de Dieu. La folie de Dieu qui est justement plus sage que nous, et il faut être capable de se laisser déranger par la folie de Dieu qui ne nie pas notre quête, mais qui la transcende et qui l'amène au-delà d'elle-même. Alors oui, il faut accueillir ses attentes, accueillir ses espérances, accueillir tous les modes d'être qui sont les nôtres, accueillir nos pratiques, accueillir nos fois, nos religions. Et finalement, Jésus est montré, je dirais, comme accomplissant, sans les nier, toutes ces attentes, toutes ces espérances diverses, tout ce fatras de croyances que l'on rencontre dans ces textes entre l'astrologie et ceux qui croient aux anges. Eh bien, il accepte tout ça et, à partir de là, il le transcende en l'emmenant dans un autre domaine. Il ne demande pas hommage de ne plus être astrologue, il ne demande pas hommage de devenir juif, il ne demande pas aux bergers de cesser de croire à toutes ces sornettes d'anges et de trompettes. Il prend l'attente, le mode de vie, l'espérance, il l'accepte et il y répond de la manière juste pour Dieu et décalée par rapport à ce qu'étaient les hommes. Mais il s'appuie toujours sur l'attente et sur l'espérance de l'homme. Et je crois que dans notre mode de vie, eh bien, c'est dans nos préoccupations que Jésus peut se révéler. Même si nos préoccupations sont au ras des pâquerettes, c'est dans nos préoccupations que Jésus se révèle. Si Jésus ne se révèle pas dans nos préoccupations, alors je me demande où il se révèle et à quoi il sert. À ce moment-là, on prêche une religion complètement décalée par rapport à la vie des gens. C'est bien beau de dire « ne vous préoccupez pas de votre santé, ne vous préoccupez pas d'être riche ou pauvre », mais dans le fond, c'est ça dont nous avons besoin. On ne peut pas dire aux gens « arrêtez de vouloir vivre ». Et donc nous voulons vivre, simplement il faut être capable d'intégrer la question autrement et d'arriver à être disponible pour écouter quelle est la réponse de Dieu aux questions que nous nous posons. Et je pense donc que si nous voulons faire un christianisme moderne aujourd'hui, il ne faut pas prendre ces exemples de la Bible comme ces textes de la Bible comme des exemples à imiter. Au contraire, je prends tous ces textes comme des preuves que le message évangélique doit s'adapter à la personne et que donc il n'y a pas de modèle de révélation du Christ et de manifestation du Christ dans une vie. Le Christ ne peut se manifester que dans la culture, que dans le mode de vie, que dans la personnalité de chacun. Et puis aussi, il nous faut, je crois, accepter les préoccupations des gens, accepter leurs aspirations, ne pas les nier pour proposer une autre réponse à une question qui ne serait pas la leur. Mais il faut cette aspiration la conduire vers quelque chose, la conduire et montrer comment l'Évangile répond à cette question, même si il faut lui faire une petite évolution, un petit changement, même s'il répond un peu à côté, il vit quand même. Finalement, nous vivons dans ce monde, avec les aspirations de notre monde. L'originalité du chrétien, c'est plutôt la manière d'attendre qu'on y réponde. Alors pour nous aujourd'hui, je crois que ça doit nous conduire à un christianisme, je dirais, non formaté. Le Christ peut se manifester de beaucoup de manières différentes, suivant la personnalité de chacun, et peut-être même parfois dans des voies apparemment condamnables. Je crois qu'il y a un grand exemple là de tolérance. Le Christ va finalement se manifester en fonction de l'attente de chacun. L'un est en quête d'une rationalité extraordinaire, le Christ sera l'accomplissement de la rationalité. L'autre, au contraire, est, je dirais, dans une sorte d'attente d'une présence spirituelle, le Christ sera le champion des charismatiques. Un autre sera de nature angoissée et son attente sera de trouver la paix, eh bien le Christ lui donne la paix. Un autre, enfin, se sent mal aimé, eh bien, à celui-là, le Christ sera une source d'amour infini. C'est comme ça. Le Christ pourra être encore celui qui accomplit la justice, à celui qui est sensible à cela. Il faut donc voir quelle est l'espérance, quelle est l'attente, et finalement, comprendre que le Christ est celui qui peut combler et remplir cette attente. Alors, je vous disais, pour ce qui est des vœux, finalement, après avoir été longtemps contre, je suis pour les vœux. Je suis pour les vœux. Et je crois que c'est à partir de là que l'on peut construire notre religion. Bien sûr, il ne faut pas en rester aux vœux. Mais c'est à partir de là que l'on peut construire notre propre religion. Parce que notre religion ne peut pas flotter en l'air au-dessus de rien et de n'importe quoi. Notre religion s'enracine dans notre existence. Et donc, il n'y a aucune raison de culpabiliser les gens sur leurs souhaits, sur leurs vœux, sur leurs quêtes. Il faut admettre, comme Jésus l'a fait avec les mages, avec les bergers, admettre nos quêtes, admettre nos désirs, admettre nos aspirations, admettre nos souhaits, admettre nos vœux. Il faut les accepter et à partir de là, construire quelque chose. Il faut les accepter et je dirais les sublimer, ne pas nier ces questions et ces aspirations, mais les sublimer. Nos désirs, nos croyances ne sont pas des choses mauvaises. Au contraire, il faut, je dirais, les assumer et s'en réjouir, parce que cela peut nous mettre en marche. Donc, vous avez envie d'être riche ? Eh bien, très bien, vous avez raison. C'est une bonne quête. Vous avez envie d'être en bonne santé ? Eh bien, très bonne chose. Vous avez envie de réussir professionnellement ? Eh bien, merveilleux. Il n'y a aucune honte, aucune culpabilité à aimer d'être heureux, à aimer d'être riche, à aimer d'être en bonne santé, à aimer d'avoir une famille aimante, d'avoir de beaux enfants, d'avoir un métier réussi. Aucun problème. C'est au contraire une très belle chose, tant qu'on n'en reste pas là. Parce que peut-être que effectivement, le seul problème et la seule crainte là-dedans, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce serait de garder à un type de réponse particulier et limité une sorte de préoccupation ultime. Et toujours, il faut croire en Dieu plus que dans nos réponses, et donc être capable d'accepter des réponses qui ne sont pas forcément celles que nous voulons, effectivement. Alors, qu'est-ce que nous demandons pour le nouvel an ? La plus importante, nous dit-on, c'est la santé. Bon, le problème n'est pas neuf. Jésus a répondu d'ailleurs à la santé, et d'une façon assez intéressante là aussi, parce qu'il aurait pu se contenter de dire à l'aveugle qui ne voyait pas, « Mais mon ami, ce n'est pas grave, tu n'as aucun besoin de voir avec les yeux, l'essentiel est invisible pour les yeux, etc. » Il aurait pu dire au paralytique, « Mais tu n'as pas besoin de marcher, reste dans ton grabat et tu peux être dans une dynamique de l'existence, dans ta tête et dans ton esprit et dans ton cœur. » Jésus n'a pas dit cela. Au paralytique, il l'a guéri. À l'aveugle, il l'a guéri. Et donc Jésus a effectivement répondu à ces demandes, je dirais très concrètes. Mais il n'en est pas resté là. Et au paralytique, il lui a dit aussi, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et à l'aveugle-né de Jean, il a montré que la chose la plus importante, c'était de se voir soi-même comme l'on est, de voir Dieu, de voir son péché et de voir ce à quoi nous sommes appelés. Et donc, certainement, Jésus, voyez-vous, guérit, mais il n'en reste pas là. Jésus n'est pas un médecin. Jésus va au-delà de la guérison. Et il montre que l'on peut aller toujours au-delà de ce que nous souhaitions. Donc il guérit, c'est vrai, mais il dit aussi « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt ceux qui peuvent tuer l'âme. » Donc l'Évangile, voyez-vous, ne dit pas que la vie physique n'est rien. Il ne dit pas qu'il faut mépriser toutes les choses de ce monde. Il dit simplement qu'il ne faut pas leur donner la place ultime et qu'il y a quelque chose de plus qui les dépasse. Quelque chose de plus important. Et donc, oui, soyons en bonne santé tant que possible. Et même si on est paralysé, on peut marcher dans son cœur, c'est vrai. Et il est vrai que même si l'on est aveugle, avec ses yeux, on peut voir l'invisible. Et donc, l'Évangile, je crois, c'est de ne pas... c'est l'essentiel dans l'Évangile, c'est de hiérarchiser. De ne pas nier ce qui est second, de lui laisser la place seconde. Donc, la santé... C'est très important, mais ça n'est pas tout. Voilà, je crois que c'est ça, l'ensemble de l'Évangile. Il n'y a pas deux catégories, les préoccupations saintes et les préoccupations mauvaises, pécheresses. Toute préoccupation est bonne tant qu'on ne s'arrête pas là. Paul nous dit, rien n'est impur en soi. Rien n'est impur en soi, Romains 14. Ce qui est impur, c'est l'usage qu'on en fait. Effectivement, plutôt que de dire, comme Madame Michu dans la rue, et surtout la santé, je dirais, et tant que possible la santé, ou alors la santé et même plus, si possible. C'est pareil pour la jeunesse. Rester jeune, c'est très bien. Et pourtant, la réponse du Christ est de nous montrer aussi qu'on peut rester jeune dans son cœur tout en vieillissant, et que le plus important... c'est d'être capable d'accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Et ça, on peut le faire jusqu'à 115 ans. Ou alors, comme Paul qui dit, « Même si mon être extérieur se dégrade, mon être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Pour l'argent aussi. Ce n'est pas mauvais de vouloir en avoir. Il n'y a pas de culpabilité à être riche. Tout dépend de l'état d'esprit. Alors, j'ai envie de m'amasser des trésors? Oui, très bien. Mais n'oubliez pas, de vous amasser des trésors invisibles que la teigne et la rouille ne peuvent pas détruire. Vous avez envie d'avoir de bonnes vacances? Eh bien, parfait. Mais n'oubliez pas non plus que le Christ a dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Ça n'empêche pas d'avoir de bonnes vacances. Et ça n'empêche pas que si on n'a pas de vacances, on peut trouver du repos en Christ. Vous avez envie d'être dans un pays en paix? Oui. Et Jésus a dit aussi, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, et moi je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et donc tout cela m'a fait penser que finalement, l'espérance du Christ n'est pas quelque chose qui doit nous nier. Et finalement, il y a un passage de Jean, un verset de Jean, qui ne me plaît pas. Peut-être que je ne le comprends pas. Quand Jean fait dire à Jésus, « J'ai vaincu le monde », ça, finalement, aujourd'hui, je n'y crois pas. Je ne crois pas que l'Évangile soit là pour nier le monde matériel et pour nous projeter dans un monde qui serait d'une autre nature. Je ne crois pas qu'il s'agisse de vaincre le monde. Je crois plutôt que le Christ peut dire « J'ai accompli toutes choses ». Jésus accomplit le monde. Jésus transcende le monde. Et il ne s'agit pas de tuer notre vieil homme, mais de l'élever à Dieu et de l'élever vers un nouvel homme et vers une nouvelle création. Nous avons des désirs, nous avons des aspirations, elles ne sont pas à nier. Mais nous devons construire dessus pour aller au-delà. Si on oublie ce que nous sommes, nous tombons dans le vide. Et si nous en restons à nos petits désirs matériels, nous n'allons pas bien loin. La Jérusalem céleste n'est pas construite sur du vide. La nouvelle création, je dirais, ne tombe pas du ciel. La nouvelle création, elle est construite sur l'ancienne. Et Jésus ressuscite le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, qui suit la semaine précédente. Et donc, il faut assumer l'ancienne création pour arriver à la nouvelle. Et c'est comme ça, je crois, que nous pouvons être dans une dynamique et que le Christ peut se manifester à nous parce que, à partir de nos aspirations, de notre faiblesse, de tout cela, Jésus vient là-dedans et faisons-lui confiance. Il saura nous amener là où il veut que nous allions. Mais faisons-lui confiance que ses réponses à nos vœux sont les bonnes réponses et c'est lui qui a raison. Mais si nous n'avons pas de vœux et pas de questions, Jésus aura du mal à nous donner ses réponses. Et donc oui, faisons tous les vœux possibles et attendons d'entendre ce que Jésus nous donnera comme réponse. C'est ça la bonne réponse. Amen.